Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et nous débuterons ce journal aux États-Unis, où l'on attend toujours qu'un camp républicain ou démocrate sorte du lot pour prendre la présidence. Pour le moment, Donald Trump et Joe Biden sont au coude à coude. Statu quo, pas de grosses surprises. L'état de Pennsylvanie pourrait être décisif. Nous irons sur place dans un instant. À Vienne, l'enquête se poursuit. 16 personnes sont toujours entendues 48 heures après l'attaque terroriste qui a fait 4 morts dans le centre de la capitale autrichienne. Le groupe État islamique revendique cet attentat. Et puis les colères se superposent en France contre la gestion de l'épidémie de Covid-19. Nous entendrons dans cette édition celle des évêques de France qui souhaitent que les messes reprennent malgré le confinement. 145 grands électeurs pour Donald Trump, 213 pour Joe Biden. Il en faut 270 pour remporter la mise et le bureau ovale de la Maison-Blanche. Autant vous dire que c'est encore très serré ce matin. Les résultats définitifs de la présidentielle aux États-Unis se font attendre, mais une chose est déjà sûre, il n'y a pas de vague bleue démocrate comme annonçaient les sondages. Pas de surprise pour le moment, on reste grosso modo sur la carte de 2016. Certains démocrates veulent rester optimistes quant aux chances de Joe Biden, mais comme Joe rencontré à Washington cette nuit, il n'oublie pas la mauvaise surprise d'il y a 4 ans quand Donald Trump s'était imposé contre toute attente.
Je suis optimiste mais prudent, parce qu'en 2016, on était tous optimistes et on a vu ce qu'il s'est passé. Ça se présente mieux cette fois-ci, les résultats semblent plus assurés, mais on n'est toujours pas sûr. Donc je reste optimiste, mais je retiens mon souffle.
Le démocrate Joe Biden qui peine donc à remporter certains États, des États qui vont s'avérer essentiels dans les heures à venir. Les États du Nord, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie. La Pennsylvanie, où nous retrouverons d'ailleurs Maxime Tellier. Bonjour Maxime.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Vous avez passé la soirée avec des républicains côté Trump donc.
Oui, la soirée qui se termine hein, ici, il est minuit et demi en Pennsylvanie. Je suis dans un grand bar qui a été investi par des républicains, donc dans le nord-est de la Pennsylvanie. Une watch party, comme on dit ici, où Fox News était branché, une soirée télé en fait. Hein. Des républicains qui étaient plutôt confiants en début de soirée, mais prudents. Et puis les applaudissements ont commencé à résonner, les sourires aussi à mesure qu'on apprenait les victoires de Trump en Floride et dans la plupart des États qu'il avait gagné ailleurs et déjà en 2016. Trump, il nous comprend, il nous défend, il fait ce qu'il dit, même si le personnage est particulier. C'est ce que j'ai pu entendre ce soir. Et puis la vague bleue n'a pas eu lieu et ça, c'est une victoire, Clara.
Et que peut-on dire, Maxime, plus globalement sur la situation dans l'État ce matin ?
Alors, ce matin, donc cette nuit ici, hein,
oui,
minuit
nuit
et demi en Pennsylvanie, 60% des... Oui, voilà. 60% des résultats seulement ont été décomptés. Too early to call, disent les chaînes de télé ici, hein, trop tôt pour se prononcer. Trump se défend bien, hein, ça quand même, il faut le dire. Il est en avance, 56-42, mais vous le savez, il y a beaucoup de votes anticipés qui ont été postés. 2,5 millions, c'est 8 fois plus qu'en 2016. Et traditionnellement, ce mode de scrutin est plutôt démocrate. La ville de Philadelphie annonce aussi qu'elle a arrêté les décomptes. Et la ville est plutôt démocrate aussi, elle la reprendra à 10h30 demain. Donc 16h30, heure française, les bulletins qui arrivent par la poste peuvent être comptés jusqu'à vendredi, donc ça risque de durer en Pennsylvanie.
Merci beaucoup Maxime Tellier, on suivra évidemment avec vous dans les jours qui viennent les résultats dans cet état. Je vous le rappelle, pour le moment, Joe Biden a 213 grands électeurs, 145 pour Donald Trump, mais rien n'est joué. J'ajoute parallèlement que pour les élections au Sénat outre-Atlantique, actuellement dominé par les républicains, le Sénat, eh bien les démocrates reprennent un siège dans le Colorado quand les républicains en reprennent un dans l'Alabama, statu quo donc. Les démocrates garderaient par ailleurs le contrôle de la Chambre des représentants. Pour suivre les résultats au fur et à mesure, il y a bien sûr notre antenne ce matin et nos plateformes sur les réseaux sociaux, ainsi que le site de France Culture avec déjà une projection. S'il y a une contestation des résultats, quel recours possible ? C'est un article à retrouver en ligne sur franceculture.fr. Le chancelier autrichien réclame une réponse européenne à l'islam politique. Voilà la déclaration de Sebastian Kurz au lendemain de l'attentat à Vienne qui a fait 4 morts et une vingtaine de blessés dans la capitale. L'État islamique a revendiqué hier cette attaque. 16 personnes au total sont actuellement entendues par les enquêteurs qui essaient toujours de retracer le parcours du suspect. Un jeune djihadiste âgé de 20 ans, il était originaire de Macédoine, déjà connu des services de renseignement. Il a été abattu hier après l'attaque. L'Autriche débute 3 jours de deuil national. Parallèlement, sachez que l'Europe continue de se barricader contre l'épidémie de Covid-19. Les contaminations progressent rapidement. Un sommet européen de crise est attendu dans 15 jours. En France, il est toujours question de reconfinement. Pas de couvre-feu en Ile-de-France comme évoqué un temps hier par le porte-parole du gouvernement. Ce mercredi, un conseil de défense est prévu alors que l'opposition a réussi à réduire la durée de l'état d'urgence sanitaire hier à l'Assemblée nationale. Elle a choisi de le prolonger jusqu'à la mi-décembre et non jusqu'à la mi-février comme le souhaitait l'exécutif. Sachez que dans le même temps, nous notons ce matin un recours qui est déposé par la Conférence des évêques de France devant le Conseil d'État contre une annonce du gouvernement. La Conférence des évêques de France proteste contre l'interdiction de célébrer la messe après les fêtes de la Toussaint, Antoine Marette.
C'est l'article 47 du décret sur l'état d'urgence qui est contesté par la hiérarchie catholique. Cet article précise que les établissements de culte peuvent rester ouverts, mais tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires. Le père Hugues de Voilemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France.
Le culte, pour les catholiques comme pour les autres religions, est important et nécessaire aussi dans ce contexte de pandémie, parce que, bien sûr, le virus circule, mais il y a aussi un virus de la peur, un virus de l'appréhension qui circule aussi, qui est très important. Et nous disons que la santé psychique, le besoin de se retrouver est aussi très important et l'Église peut offrir des ressources pour que les citoyens traversent cette épreuve d'une manière personnelle comme d'une manière collective.
En mai dernier, le Conseil d'État avait déjà imposé au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte. Il n'avait pas alors été saisi par la Conférence des évêques de France, mais par quelques associations et notamment le très groupusculaire Parti chrétien démocrate. Son président, Jean-Frédéric Poisson, qui dépose à nouveau un recours, espère bien réitérer la surprise du printemps dernier.
On voit bien que dans beaucoup d'aspects de la gestion de cette crise, nous touchons les limites de compétences des gens qui nous gouvernent. Ils n'ont toujours pas compris, ces gens qui nous gouvernent, que la religion, la spiritualité en général, peuvent être considérées comme des variables d'ajustement de la vie sociale. L'assistance au culte auquel on est attaché, comme d'ailleurs l'accès à la culture, à la spiritualité, sont des choses absolument essentielles à l'équilibre de la vie sociale.
Le Conseil d'État va donc devoir à nouveau s'interroger sur la proportionnalité de cette interdiction. Sa décision devrait tomber dans les prochains jours.
Antoine Marette, je précise que le bilan s'alourdit en France avec 426 morts supplémentaires ces dernières 24 heures à l'hôpital, 428 en EHPAD ces derniers jours. Près des deux tiers des lits de réanimation dans les hôpitaux sont occupés par des malades du Covid-19 actuellement. Nous en venons maintenant à cette OPA de Veolia sur Suez. Elle se fera quoi qu'il arrive. Déclaration hier du PDG de Veolia qui est bien décidé à accélérer le calendrier quitte à ce que les actionnaires de Suez modifient la composition du conseil d'administration. Écoutez le PDG de Veolia, Antoine Frérot, lors du point presse hier.
Maintenant que le train est lancé, il est nécessaire pour les salariés de nos deux groupes qui ne vont pas vivre éternellement dans l'incertitude que le projet avance. Puisque le conseil de Suez ne veut même pas décrocher son téléphone pour entendre mon projet, je vais le présenter directement aux actionnaires de Suez. Cela signifie, de manière simple, que l'OPA se fera quoi qu'il arrive, et au plus tard, après la prochaine Assemblée Générale. Et le chemin est donc clair.
Et la réponse des dirigeants de Suez n'a pas tardé, car ces derniers étaient auditionnés quelques heures plus tard par le Sénat. Bertrand Camus est le directeur général du groupe.
À l'heure où nous voulons réindustrialiser la France, pourquoi se priver des numéro 1 et numéro 2 mondiaux dans un secteur porteur et vital pour l'avenir? Notre pays abrite deux champions, avec deux trajectoires industrielles différentes pour conquérir des marchés mondiaux. Ce projet revient à transformer deux champions mondiaux en un seul groupe endetté et affaibli. Le projet de notre concurrent est simple, voire simpliste, démanteler Suez et affaiblir la concurrence.
Des propos choisis pour France Culture par Anne-Laure Jumet. Selon nos informations du côté de Bercy, on considère désormais que l'offre de Veolia est hostile. Le temps sera sec ce mardi avec un soleil dominant sur la moitié nord-ouest, quelques bandes brouillard sur le centre, nuages bas sur les Pyrénées. Ce matin, il fait 3 petits degrés à Rennes, 6 à Lille et Paris, 8 degrés à Dijon, 17 à Nice. Je vous rappelle le fil rouge de cette matinée, la présidentielle aux États-Unis. Pour le moment, c'est très serré entre le président sortant républicain Donald Trump et son concurrent démocrate Joe Biden. Pas de raz-de-marée démocrate. On attend toujours les résultats en Pennsylvanie, dans le Michigan et le Wisconsin. Prochain journal à 7h sur France Culture.